Tête à claque aujourd'hui, donc à Château Pergaud, à Alex. Et donc là, je rencontre Audrey qui va nous parler un petit peu de l'historique et aussi la genèse de cette histoire.
Alors, le Château Pergaud, ça a démarré avant nous. Nous, c'est le collectif d'habitants et d'associés qui habitent ici aujourd'hui. Et pour que ce projet advienne, il y a eu une association qui s'appelle l'Université de l'Avenir, qui existe encore, qui est basée à l'écocide de Heure, qui avait plusieurs projets dans ses tuyaux. Un projet d'université, un projet d'habitat intergénérationnel et puis d'autres projets, notamment d'installation de maraîchers. Et l'Université de l'Avenir avait, avec plusieurs de ses membres, rédigé une charte de l'écohabitat et de l'association Université de l'Avenir. Donc quand les associés actuels sont arrivés dans la boucle, il y avait déjà tout ce travail qui avait été fait, et y compris de prospection sur plusieurs lieux, avant de s'arrêter sur le Château Pergaud, qui a été mis en vente en 2017, après l'accueil des réfugiés ici au Château Pergaud. Et après encore le temps où ça a été un centre d'hébergement d'urgence pendant 25 ans. Donc le château a été mis en vente. Il y a une association qui avait un projet de type habitat groupé, qui le repère, qui se positionne et à ce moment-là qui essaie de créer un groupe de futurs habitants. Et de là, il y a eu beaucoup de visites. Je ne sais pas combien exactement, il y a eu certainement des centaines de personnes ont visité le château. Et quand ça commençait à être urgent en fait de pouvoir se positionner et d'acheter, parce qu'en fait un lieu comme celui-ci qui est vide, en fait ça coûte très très cher à assurer, parce qu'il y a des risques d'infraction, de squat et tout. Donc le propriétaire antérieur, c'était le CHS, donc le comité d'hygiène sociale, qui est une association qui est financée en grande partie par le département, et qui cherchait à vendre en fait ce lieu parce que il savait qu'il y aurait encore beaucoup de travaux à faire pour les mises aux normes et pour dégager de la trésorerie. Donc là on arrive à début 2020 et on s'est retrouvé à 13 plus l'Université de l'Avenir en tant que personne morale à pouvoir réunir en fait les fonds pour se positionner et acheter le château. Donc après Covid, hein, voilà. Et
donc c'est une forme SCI, c'est ça?
On a créé une SCI effectivement. Donc il y a eu signature du compromis, création de la SCI, et puis le Covid finalement n'a pas retardé l'achat. Ça aurait pu, mais ça n'a pas été le cas. Ce qui fait qu'en juin 2020, on avait les clés, en fait. Donc là, début de l'aventure pour de vrai. Avant, pendant le confinement et après être arrivé, on s'était dit oh, on aurait été bien à confiner ici. Et puis finalement, on a confiné ici, puisqu'on a reconfiné en novembre de la même année. Et justement, comme c'est un lieu avec 30 chambres, qui était habitable de suite à condition de le meubler et de faire un petit peu de nettoyage et de peinture, on s'est dit mais dans le contexte actuel d'une vallée de la Drôme qui est très plébiscitée, très attractive par rapport à sa qualité de vie et le fait que ce soit aussi facile d'accès, c'est dommage de pas exploiter entre guillemets tout cet espace, parce qu'il y a aussi un besoin. Et donc très vite on s'est dit que c'était chouette de pouvoir aussi louer les chambres, donc c'est ce qu'on a fait. Donc on s'est rapidement retrouvé à une quinzaine d'habitants au château.
D'accord. Donc quand tu dis 15 en plus des 12?
Alors, les 12 n'étaient pas forcément dans l'idée de venir habiter tout de suite.
Ah, ok, d'accord. Ouais, c'était ouais. juste un investissement, enfin, on partage d'épargne ou des choses comme ça?
Alors, pour certains, oui, ça pouvait prendre la forme d'un investissement. Pour d'autres, l'idée, c'était de d'abord faire des travaux pour transformer en appartement et venir plus tard, à échéance 2 ans. Et puis, pour d'autres encore, comme nous, les premiers à s'être installés, c'était en juillet, puis septembre, puis après janvier de l'année suivante. C'était parce qu'en étant sur place, l'intérêt, c'était de vraiment se consacrer au projet, à sa structuration, à l'accueil, etc. Et on avait dans l'idée de développer... rapidement le maraîchage, donc ça s'est mis en place très vite avec un potager, et puis aussi de développer tout l'aspect artistique et culturel, ce qui nous a permis de proposer une programmation en fait vraiment de qualité et très 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 riche assez rapidement, presque même plus tôt que ce que nous on aurait envisagé. Mais en fait on est aussi dans un bassin où il y a énormément d'artistes circassiens, mais pas que. Et les premières propositions qu'on a eues, bah, c'était notamment des marionnettistes pour des résidences de création, avec après sortie de résidence devant un petit public. Donc tout ça, ça s'est fait en fait naturellement, un peu aussi de bouche à oreille. Et nous, on était juste ravis en fait de pouvoir donner vie à ce genre de projet.
Et c'était quoi en fait vos idéaux sur le projet, vos projections, enfin je sais pas, qu'est-ce qui vous a motivé finalement à aller jusqu'à l'achat d'un bâtiment qui est quand même pas c'est pas rien, enfin c'est un gros investissement, j'imagine aussi. Donc c'était quoi la motivation?
Je crois que le groupe, en fait, qui s'est constitué, il est assez hétérogène, mais chacun d'entre nous, on aspirait à opter pour un mode de vie plus coopératif, plus solidaire, de faire vivre ce qu'on appelait à l'époque des solidarités villageoises, où en fait, on compte sur ses voisins pour le quotidien, se rendre des petits services par rapport aux enfants, aux personnes âgées, par rapport à des choses qu'on a intérêt à mutualiser, comme les courses, l'approvisionnement, les travaux un peu lourds, trouver aussi des complémentarités de connaissances, de compétences, en se disant, bah, en fait, ça a ses limites, l'habitat individuel, et on ne s'y retrouve pas trop. Je crois qu'on avait presque tous aussi des expériences en colocation. Et on avait envie de prolonger ça dans un lieu grand, parce qu'en fait, c'est aussi une caractéristique majeure du lieu, c'est que c'est un endroit où on a forcément un grand collectif. Et ce grand collectif d'habitants, il permet la diversité. Il permet la diversité d'âge, de profil, etc. Et je crois que les personnes qui se sont arrêtées à ce lieu, parce que souvent, c'est aussi le fruit d'un cheminement, certains voilà, ont visité d'autres lieux ou ont participé à l'émergence d'autres lieux. Et ici, ce qui a fait tilt, c'est déjà le lieu est très beau. C'est vraiment un petit paradis. Il est proche de la nature. Et en même temps, bien qu'il soit grand, les espaces privatifs sont petits. Donc ça, c'est lié à sa configuration par rapport à son histoire de centre d'hébergement d'urgence. Il y a beaucoup d'espaces communs et on a fait le choix justement de commencer à vivre avec cette configuration-là pour voir ce que ça allait donner et ensuite se projeter pourquoi pas sur des réaménagements pour créer des appartements, mais dans l'idée quand même de limiter la surface privative au bénéfice des espaces communs. On a deux familles, donc de 4 personnes avec des enfants en bas âge qui eux par contre ont un appartement avec pas seulement une chambre et une salle de bain, mais avec aussi un espace à vivre avec un coin cuisine. Parce qu'il y a aussi un besoin de cocon quand on vit en famille. Ça, c'est important. Il y a une cuisine, ce qu'on appelle centrale, où on sait que tous les repas peuvent être pris là, matin, midi et soir. Il y a aussi 2 à 3 cuisines secondaires. Il y a même une petite colocation dans la grande colocation au niveau de l'aile ouest. Donc, ces modalités, en fait, permettent aussi d'alterner entre le grand groupe, un groupe un peu plus petit, et en tout cas pour les familles, de pouvoir se retrouver chez elles aussi, quand elles le souhaitent, à l'intérieur de l'habitat groupé. Ce qui ressort quand même, donc maintenant ça fait 2 ans le projet existe et qu'il se vit, c'est que pour certaines personnes, parce que les chambres font à peu près 13 mètres carrés, avec donc un coin salle de bain, WC, c'est que finalement c'est assez petit, 13 mètres carrés. Ça répond bien à l'usage d'un espace pour se reposer. Par contre, on ne va pas accueillir nécessairement des amis, de la famille. Alors, on a aussi des chambres qui servent de chambres d'amis. Mais en termes d'intimité, voilà, c'est vraiment limite. Et il n'est pas rare qu'il y ait des personnes qui aient besoin de sortir du lieu pour se ressourcer, pour retrouver un petit peu d'espace, etc., de respiration. Donc, ce qu'on souhaite pour les prochains mois, voire années, c'est aussi tenir compte de ses besoins évolutifs, avec l'âge aussi. Hein. Des fois, on a besoin d'un peu plus d'espace parce qu'on passe un peu plus de temps à l'intérieur, chez soi. C'est de se donner les moyens d'agrandir les espaces privatifs, tout en gardant quand même, ça, c'est parce que ça restera très certainement une dimension, majeure dans le projet, c'est de garder pas mal d'espaces communs pour la convivialité qui se joue beaucoup autour de la préparation des repas qu'on peut prendre ensemble, mais en tenant compte des besoins d'un peu plus d'espaces privatifs pour les personnes, y compris pour pas perdre, entre guillemets, certains habitants qui s'interrogent en fait, qui se disent « bah là, ça me plaît, je trouve ça génial, mais est-ce que sur du moyen-long terme, ça va encore me correspondre ?» Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours de réflexion.
Vous avez eu des départs ? Enfin, des gens qui sont partis, j'imagine.
Oui, bien sûr. On a eu. Alors, au niveau du groupe d'associés initial, il y a eu une scission. 9 mois après le démarrage du projet, on s'est rendu compte qu'on ne regardait pas forcément dans la même direction. Et on a d'ailleurs fait appel à un médiateur pour pouvoir poser un constat partagé. Même si on n'était pas d'accord, arriver en fait à regarder là où on n'était pas d'accord, là où il y avait peut-être des incompatibilités, de manière à pouvoir prendre une décision qui est, est-ce qu'on continue ensemble ou pas. Donc à l'issue de ce travail, la conclusion ça a été non, on ne va pas pouvoir continuer ensemble. Et une partie des associés, la moitié en fait, a demandé le remboursement. Donc nous, on avait prévu dans les statuts la possibilité, bien sûr, qu'il y ait des gens qui partent et qu'il faille les rembourser. Et comment on allait pouvoir les rembourser sans que ça vienne fragiliser en fait tout le projet. Et donc à partir de là, on s'est mis en réflexion, en action pour trouver des nouveaux habitants, des nouveaux associés, avec aussi une démarche assez structurée dans le mode graduel qui est de temps de découverte, temps d'immersion, avec in fine de part et d'autre, hein, parce qu'on se coopte en fait, il faut se dire ah oui, on a envie d'habiter ensemble, trouver des nouvelles personnes qui se reconnaissaient bien dans ce lieu, et puis bien sûr en plus qui apportent leur couleur, c'est-à-dire que le lieu, il se construit aussi grâce et avec les habitants qui composent le collectif. Donc ça c'était en avril. De cette année, on a fait une assemblée générale extraordinaire qui a permis d'acter l'entrée de nouveaux habitants, nouvelles associées, qui permettait de rembourser ceux qui souhaitaient en sortir. Et donc de là, le groupe d'associés s'est reconfiguré. Et aujourd'hui, on est encore dans une démarche aussi de trouver des nouveaux associés habitants parce qu'il reste un peu de place. Et parce qu'on a aussi besoin d'investissement pour faire des travaux.
Ah, j'arrête de demander juste.
Ouais. Parce que la plupart, on a mis un peu toute notre épargne, en fait. On a pu, vraiment la possibilité d'abonder au pot commun. Donc il y a d'une part une démarche de prêt auprès de la coopérative Oasis qui prête à des projets comme celui-là. Et donc là, en fait, on est en train de monter un dossier qui devrait être instruit d'ici la fin de l'année, en décembre, donc on sera rapidement fixé. On espère qu'on sera soutenu par la coopérative Oasis. Et là, ça nous permettrait en fait de changer de chaudière, parce qu'on a une chaudière au fioul, donc ça nous coûte très cher vu l'augmentation du prix du fioul, et de refaire aussi ce qu'on appelle le poulailler, qui est un entrepôt de 800 m² qui menace de s'effondrer. Donc là, on prétend obtenir un prêt de l'ordre de 200 000 euros remboursable sur 10 ans, qui est plutôt en bonne voie, mais voilà.
Après, il n'y a pas de subvention ou d'aide ?
Alors, il y a des aides, notamment par rapport à la chaudière, des aides de l'ADEME. Donc là aussi, on a fait un dossier. Et là aussi, on attend un avis qui devrait être favorable. Et vu la taille, donc là, on est sur 1500 m² habitables. Donc forcément, c'est un équipement extrêmement coûteux. Et la subvention de l'ADEME, en fait, elle est en pourcentage en fonction de la puissance de l'équipement. Donc c'est assez intéressant. Ça serait une prise en charge qui avoisine la moitié du coût total. Donc forcément, ça ferait une grosse, grosse différence. Sinon, en termes d'aide... Pour le moment, on n'a pas
fait pratiquement en autogestion finalement.
Oui, l'équilibre financier s'obtient en fait grâce au loyer. Donc les habitants payent un loyer qui couvre les charges de la SCI et l'association, quant à elle, elle organise un certain nombre d'activités dont l'accueil de groupes. Et donc, ça nous permet de pouvoir financer de l'entretien courant et un peu d'investissement.
Salle à manger commune, et donc la question c'était qui fait à manger, comment vous organisez?
Alors oui, il y a donc la possibilité de manger midi et soir, et même le matin aussi, il y a le petit déjeuner ensemble, donc en collectif. Après, ce n'est pas une obligation, donc il y a des petites cuisines, donc des fois, voilà, on peut aussi se faire à manger. Voilà. Ce n'est vraiment pas une obligation, c'est une proposition. Et comme on s'organise pour la cuisine, donc voilà, on veut que ça reste organique, donc il n'y a pas une obligation de s'inscrire X fois par semaine sur notre tableau. Mais voilà, il faut voir que ça tourne. Donc il faut rester attentif, il faut voir s'il y a suffisamment de personnes en cuisine, etc. C'est vraiment le principe que ça tourne. Et finalement, si ça tourne bien, voilà, on doit peut-être faire deux fois par semaine la cuisine et ensuite ranger, etc. Ça, c'est un peu tous les jours. Mais finalement, ça permet aussi voilà, une économie en temps, finalement, sur la semaine. Parce qu'en effet, il faut faire à manger pour des fois pour 30-40 personnes. Donc, ça prend plus de temps. Mais le reste du temps, on vient au buffet. C'est toujours très bon. C'est impressionnant parce qu'on cuisine donc, surtout des légumes de notre jardin et de la production agricole pas loin d'ici, mais on a aussi en termes d'achat, on essaye d'avoir des produits qui viennent de la Drôme, etc. Donc c'est des achats collectifs, donc c'est vraiment la bonne qualité locale, etc. Et ça fait super plaisir de préparer ça et de manger ça. C'est globalement c'est un manger.
Celui qui est nul en cuisine.
Il apprend et ouais. Entre-temps, il peut couper des légumes. Ça marche toujours. Uh-huh. Non, mais je pense que c'est une autre manière de faire la cuisine. Déjà, on cuisine très rarement avec des recettes parce qu'on a justement, on va pas au supermarché pour acheter tout ce qu'il faut pour une recette, mais on va voir qu'est-ce qu'on a en termes de légumes, en termes de lentilles, riz, etc. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qu'il y a et on va créer quelque chose.
Et la viande ?
La viande, il y a d'une manière irrégulière, on peut dire. Donc il y a quelques végétariens, mais il y a quand même de temps en temps de la viande. Mais c'est plutôt acheté du coup quand on a l'occasion sur les marchés, etc. Donc on n'a pas un système de livraison régulier là-dessus.
Et comment vous décidez ? En fait, c'est vraiment. En fait, vous avez vos légumes. Bon, là, pour l'hiver, ça va certainement être un peu plus restreint. Et vous faites en fonction de ce que vous avez, en fait. Il n'y a pas de projection en disant, par semaine, il faut qu'on achète ça, ça et ça. Ou si, quand même, un peu, parce qu'après, comment ça se passe au niveau du budget ?
En fait, qu'est-ce qu'on achète ? C'est en fonction de notre producteur du coin. Donc, on fait des commandes en ligne et on fait des commandes en fonction du nombre de personnes qui seront là. On le sait à peu près. Et donc, il y a un groupe approvisionnement donc, qui gère les achats collectifs. Et ils vont commander deux fois par semaine. Et donc, on aura les légumes toujours frais qu'on garde dans notre cave. Et ensuite, c'est l'association qui prend en charge ces achats-là. Et donc, nous, on paye un prix libre pour les repas, qui varie aussi en fonction de notre engagement sur le lieu. Donc quelqu'un qui passe beaucoup de temps de manière bénévole sur le lieu, sur les chantiers, le jardin, tous les pôles, tout ce qu'il y a à faire, il peut manger gratuitement.
Ah ok, d'accord, ça marche comme ça en fait. C'est un peu méritocratie, non ? Non, pas un peu ?
C'est aussi notre système. Aujourd'hui... il n'est pas bouclé, disons. Donc, il repose beaucoup sur du bénévolat. Donc, à un moment donné, pour les personnes en transition, donc qui ont du chômage, RSA, ça fonctionne très bien. Mais ensuite, il faut trouver un équilibre. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce souhait, en fait, de pouvoir attirer, en fait, cette activité et garder cette bénévolat sur place. Donc, des personnes qui continuent à s'investir, etc. Le temps, au moins, quand on arrive à créer aussi des activités sur place, etc., et stabiliser un système qui est un peu plus intéressant que rémunérer, finalement, en effet, le bénévolat de cette manière-là. Donc, on rentre dans une phase, aujourd'hui, on réfléchit sur la création d'activités sur le lieu. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'habitants aujourd'hui qui sont, comme je disais, aussi en transition. Donc, qui ont quitté un travail, qui sont un peu en recherche ou en formation, etc., pour faire autre chose. Et là, à côté, par exemple, l'idée, ça serait de créer un atelier de fabrication de transformation, donc du kombucha, pour faire du kombucha. Et moi, par exemple, je fais une formation en ce moment au CAP boulangerie, donc créer un fournil, etc. Donc,
ah,
il y a, voilà, il y a différentes activités qui sont un peu dans les starting blocks, dans le sens, voilà, on réfléchit sur qu'est-ce qu'on peut créer ici, comment, avec quel montage juridique, financier derrière, avec quel modèle donc aussi économique, qu'est-ce qu'on veut porter en termes de solidarité entre les projets, entre les personnes, etc. Donc c'est hyper intéressant et on essaie aussi de s'inspirer de, d'autres écolieux qui ont déjà pris l'avance par rapport à ça. Et voilà, donc le collectif est relativement jeune, donc c'est vraiment en ce moment qu'on est dans cette discussion et Il y a des personnes qui ont déjà leur travail à l'extérieur ou en auto-entrepreneur qui n'ont pas forcément besoin ou intérêt d'organiser leur travail d'une manière plus collective. Mais il y a d'autres, en fait, où on a une vraie discussion sur comment on peut créer en fait, une structure qui permet de mutualiser les investissements, les risques, les bénéfices, comment on peut s'assurer que chacun a un salaire qui permet de vivre tranquillement aussi, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est en ce moment qu'on se lance là-dessus et c'est très stimulant. Mais c'est encore un peu... Voilà,
c'est en réflexion. En gestation. Ouais. Ce sont des projets, en fait.
C'est ça, ouais.
Il en faut des projets.
Il en faut, oui, tout à fait.
J'ai entendu parler d'une éolienne.
Donc, ça c'est un habitant, donc Jay. C'est son travail. Donc, il organise... Bon, il fait plein de choses, mais entre d'autres, ils organisent des séminaires, des stages, des constructions de petites éoliennes.
C'est une toilette commune ou c'est quoi ?
Sèche, ouais.
Ah oui.
Ouais. Okay. Juste à côté, on va voir, il y a une brasserie. Donc, on fait la bière pour notre propre consommation. Et donc, ça crée pas mal d'eau chaude, en fait, pendant la fabrication. Donc, il est possible de le transférer avec un tuyau dans la baignoire pour prendre un bain chaud.
Ah, ok. Ah, ouais, une brasserie. Donc, là, c'est des personnes du lieu qui font de la brasserie, enfin, qui...
Tout à fait.
Ok.
Donc, voilà, c'est uniquement pour la consommation ici sur place. Voilà,
parce que c'est pas revendu ailleurs.
Non, c'est très réglementé. Mais donc, c'est une installation unique dans le monde, a priori, avec donc un rocket stove, donc pour chauffer l'eau notamment, et aussi ensuite le brassin. Et voilà, toute l'installation avec les tuyaux et le moteur et un.
Oui.
Mm-hmm.
Perceuse,
exactement.
C'est ça.
Voilà, ici, on se retrouve des fois le soir pour papoter de tout et de rien.
Ouais, c'est pas ça fait.
Et ça, c'est le petit chaudron, on appelle cet endroit.
D'accord.
Voilà. Et ça, ici, donc, tu demandais si on a une grande salle. On a une qui est donc pour le moment. Pas du tout mis en valeur,
ouais.
Mais c'est vrai que voilà, il y a pas mal de potentiel ici. Donc c'est l'ancienne écurie.
Ah oui.
Et c'est vrai que voilà, là on est en train de réfléchir un peu sur comment on peut aménager cet espace, etc. Mais c'est vrai qu'il est très grand et il est chouette.
Ouais.
Il y a beaucoup d'auteurs sur le plafond, etc. Donc.
Oui, si vous voulez faire genre des concerts ou des choses comme ça, ce serait des spectacles en tout cas.
Ouais.
Ça serait le lieu idéal, quoi.
Oui, c'est ça. Mais pour le moment,
c'est jouable l'été, mais
voilà. Pour le moment, tout est ouvert. Donc, voilà. Et derrière, je ne sais pas si tu veux voir le jardin. Donc, par rapport à l'éolienne, donc elle produit de l'électricité. Donc, à peu près, elle permet de produire 10% de nos besoins en électricité. Donc, voilà, c'est intéressant sans que ça nous rend vraiment autonome, on peut dire. Ouais, mais c'est
toujours 10%. Hein.
Voilà, et c'est tout à fait intéressant aussi de voir en fait qu'il est possible d'avancer lentement, mais sur cette autonomie là aussi par rapport à l'énergie. Donc voilà. Et donc c'est Jay qui organise ces types de stages. Il le fait à peu près 2-3 fois par an ici, mais sinon surtout aussi à l'extérieur, un peu partout en France. Et là, bientôt...
Tu veux dire qu'il fait des stages de formation pour créer son éolienne ou...
Oui, exactement.
Ah,
donc les stagiaires, ils construisent un éolienne ensemble. Et ensuite, elle est montée quelque part chez un des participants. Où, voilà. Voilà, là, on la voit un peu tourner. Donc, elle tourne bien, là. Là, si on avance encore un peu. Alors, donc, tu as demandé tout à l'heure s'il y a plusieurs statuts parmi les habitants. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on a donc, on pourrait dire, les propriétaires. Donc, ils ont des parts dans la SCI, des associés, et les habitants. Qui sont aussi, qui payent voilà, un loyer, etc., mais qui ne sont pas propriétaires. Et au début, en fait, les loyers étaient construits d'une manière que les locataires payaient finalement plus que les propriétaires. Parce que voilà, l'idée, c'était de dire qu'ils n'avaient pas investi autant d'argent, etc. Donc, et aussi, ils étaient moins investis, d'une certaine manière, dans le projet global. Mais quand on a réfléchi ensemble, on s'est dit on reproduit clairement en fait toutes les structures qu'on critique dans la société. Et donc on s'est mis à réfléchir sur un système équitable en fonction des mètres carrés, des espaces communs avec une part fixe, etc. Mais quand on regardait les ressources financières de chaque foyer, on voyait qu'on n'arrivait pas à trouver une solution satisfaisante. Qui permettait donc à tout le monde de vivre bien avec les moyens. Voilà. Et donc, on s'est dit, on va faire un exercice, un test d'autodétermination des loyers. Donc, en expliquant avant quelles sont les charges, donc qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table pour que le projet reste vivable, pour qu'on n'ait pas de problème de payer nos factures. Et, et comme ça, tout le monde est au courant de ça. Tout le monde sait aujourd'hui combien il ou elle paye. Et donc ensuite, on a fait un tour en fait, d'expression. Et je ne m'y attendais pas à ça, mais c'était une des meilleures réunions de ma vie sur notre rapport à l'argent. Donc et chacun a raconté un peu qu'est-ce qu'il ou elle a aujourd'hui comme ressources, etc. Mais surtout, en fait, comment l'argent est géré dans la famille, le choix du métier par rapport à l'argent, etc. C'était vraiment plein d'informations et plein d'informations très intimes de chacun. Bon, c'était super. Et ensuite, chacun a écrit sur un papier son loyer. On l'a mis au milieu. On a fait l'addition. Et voilà, ça marche. Donc pour le moment, c'est qu'un exercice. Donc on va le refaire bientôt parce qu'il n'y avait pas tout le monde pour aboutir au loyer.
Tu veux dire qu'en fait, les loyers, ça, c'est les personnes qui ont dit, moi, je peux tant.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
Ok,
ouais.
D'accord. Et là, en fait, il n'y a pas de frustration par rapport à certains de se dire « je paye plus » ou « c'est transparent » ou « ouais ».
Oui, non, mais bien sûr. L'idée, c'est que ça soit transparent et qu'il y a vraiment une idée de confiance derrière. Mmh. De dire aussi, il y a aussi un critère de réversibilité. Comme ça, on incite aussi les personnes qui ont la possibilité aujourd'hui de donner plus, avec la possibilité de donner moins s'ils perdent leur... emploi, oui, etc., qu'il y a des changements possibles. Mais vraiment trouver des situations qui sont confortables pour tout le monde, qui protègent les personnes qui ont peu de revenus et qui permet quand même de couvrir toutes nos charges et trouver des solutions par rapport à ça.
Génial.
Ouais, et on était assez contents d'avoir trouvé cette approche-là et cette solution. Et on s'est dit, c'est justement ça l'intérêt dans un collectif aussi, de pouvoir mener des expérimentations et essayer de dépasser certaines choses qu'on pense en fait inscrites et figées. Et essayer aussi de créer une solidarité entre les habitants. Rarement le cas, finalement, dans une société où chacun vit dans sa maison, etc., même si ça peut se produire entre amis. Ici, il y a la possibilité de tester ce genre de choses, quoi. Donc, par rapport à notre organisation interne, donc on a 7 pôles, donc sur la communication, agriculture, accueil, la compta. Donc voilà, il y a plein de différents pôles et les gens se regroupent. Il y a plusieurs personnes dans chaque pôle. Et l'idée, c'est en fait qu'ils s'autonomisent assez pour qu'on doit pour éviter que chaque décision doit être prise avec tout le collectif. Donc ça, c'est un peu l'enjeu en ce moment, comme il y a beaucoup de choses à faire, etc., et à décider de trouver une manière de garder la place libre dans nos réunions collectives pour vraiment l'expression, aussi une vraie discussion sur les enjeux qui nous touchent et pas uniquement acter des décisions factuelles. Donc ça, c'est un peu par rapport.
Les pôles, finalement, ou les commissions, elles ont une autonomie.
Oui, c'est ça. Et on est en train de la calibrer. Donc c'est aussi voilà, quelque chose qui est en cours.
Parce que c'est pas évident. Ouais.
Non, c'est vraiment pas évident. Et les réunions, ensuite, c'est animé par deux personnes. Donc en ce moment, on fait une phase test pour trouver un calibrage qui correspond pas au collectif en ce moment, donc ça peut varier aussi. Mais normalement, c'est tournant. Donc voilà, l'idée, c'est aussi que ça tourne, que chacun s'applique là-dessus, qu'il y a des manières de faire différents. Et là, voilà, on est en recherche encore sur ça. Mais nos décisions se font par consentement. Donc on ne fait pas de vote. On essaie vraiment d'éviter ça un max. C'est pas exclu, mais voilà, normalement, ça fonctionne très bien. Ouais. Et voilà.
Vous n'avez jamais eu trop de soucis à ce niveau-là?
Non, après, c'est forcément plus long.
Parce oui, que, c'est ça, bah oui, il faut faire tourner l'histoire, quoi.
Voilà,
chaque fois,
exactement.
Jusqu'à ce que tout le monde arrive à peu près à se mettre d'accord sur un projet, quoi.
Et donc, forcément, il faut, pour les décisions importantes, il faut garder la place pour que chacun puisse s'exprimer. Aussi pour dire, bon, c'est pas grave, même si c'est urgent, bah, on le refait la semaine prochaine, etc. Donc, c'est important aussi de prendre ce temps où on a l'habitude qu'on ne l'a pas. Mais si on veut que ça tourne, que ça fonctionne, il faut accepter que certaines choses sont plus longues que quand il n'y a que deux décisionnaires. C'est logique.
Donc,
c'est, ouais. C'est aussi accepter un peu la lenteur d'avancer sur certains sujets qui peut être source de conflits par ailleurs. Mais voilà, c'est ça aussi le collectif.
Ça se résout bien quand il y a des conflits ou...
Franchement, ce n'est pas différent dans un collectif que dans la vie. Donc, ça dépend de plein de facteurs. On essaye, si c'est des conflits qui émanent du collectif ou qui touchent le collectif, de mettre en place une médiation. Déjà, en fait, le collectif se rend compte qu'il y a un truc qui se passe, qui impacte tout le monde, en fait, on essaye de rendre ça transparent et voir s'il y a quelqu'un qui peut faire une médiation, etc. Voilà, certains sujets, ça reste difficile parce que c'est un mélange entre des problèmes factuels, des manières de fonctionner très différentes, des hiérarchies finalement, des valeurs qui peuvent... Voilà, il y a plein de choses qui se mélangent parce qu'on vit ici ensemble, on travaille ensemble, on fait plein de choses ensemble, on essaie de... créer une vision ensemble, voilà, c'est clair que c'est très prenant. Et voilà, aussi un point très important qui ressort beaucoup, c'est chacun est vraiment incité, obligé de prendre le temps pour soi-même. Parce que sinon, ça ne marche pas.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est vraiment, il faut aussi des fois mettre un pas des côtés, se dire non mais là, je fais un truc juste pour moi. Et c'est très bien.
Oui,
après, je reviens avec l'énergie.
Collectif.
Exactement. Mm-hmm. Et ça, c'est important. Ouais.
Donc, toi, c'était là depuis le mois de février. Donc, ton ressenti à toi, perso, par rapport à cette expérience, finalement?
Moi, je suis super contente.
Ouais.
Voilà, ça faisait 5 ans qu'on cherchait un écolieu. On en a visité plein. Et voilà, je suis très contente parce que cet espace donne vraiment... plein de possibilités pour justement créer des activités, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, de vivre ensemble, mais aussi d'essayer d'imaginer un modèle économique différent ensemble, un peu le volet politique, sans être partisane, mais vraiment imaginer de fonctionner différemment, d'avoir un contre-projet par rapport à la société qu'on a aujourd'hui.
Et tu vois que ça fonctionne finalement.
Et voilà, ça fonctionne, on avance, c'est clair. Et ensuite aussi, on a pour les enfants ici, il n'y a pas de question par rapport à les villes, les bétons. Ici, c'est un peu la liberté.
On a des salles voûtées de ce côté-là. Uh-huh. Et ensuite, au fond, là, il y a un petit dortoir. Et pareil, au premier étage est, il y a des habitations.
Au rez-de-chaussée, il y a donc notre cuisine collective, le coworking, un petit bureau, une salle de jeu pour les enfants, aussi des salles de réunion. Et au premier étage, donc, il y a aussi une grande salle qu'on utilise plus pour des activités méditation, mais aussi des réunions, donc une jolie salle. Et le deuxième étage est, c'est ça qu'on voit là aussi avec la fenêtre ouverte, c'est l'espace qui n'est pas du tout rénové pour le moment. Et après, la grande majorité, c'est collectif ici, donc en termes de... comment dire, l'organisation de l'habitat. Les habitants, ils ont plutôt une chambre avec une salle de bain privatif, mais le reste est collectif. Donc, il y a aussi quelques cuisines à l'étage. Donc, c'est possible de faire un peu la cuisine à part, si on veut. Mais globalement, la plupart des activités se déroulent dans les espaces collectifs. Donc, ça, c'est un peu la particularité qui est faite par l'aménagement intérieur du château.
Et vous êtes combien, en fait, en tout là ?
On est une trentaine, donc 10 enfants.
C'est beaucoup, déjà.
20 adultes, voilà.
Ouais, c'est pas mal, hein. OK.
Ouais, après, voilà, il y a en effet les espaces collectifs, surtout, qui sont très grands. Et pour les enfants, c'est un peu le paradis.
Oui, voilà, c'est
on
génial.
On a pas mal d'espace à l'extérieur aussi.
Là, il y a un grand parc.
Ouais, il y a un parc. Il y a des parties boisées. Là, au contrebas, il y a le maraîchage qu'on peut visiter tout à l'heure.
Ouais.
Voilà, donc il y a quoi de faire pour courir, pour construire des cabanes.
C'est
super, ouais.
Donc, quand tu dis maraîchage,
ouais.
Donc il y a quand même une dimension très agri sur le...
Il y a une double dimension agriculturelle. Qu'on veut dire, qui a été développé jusqu'à maintenant. Donc, voilà, avec pas mal d'événements qui ont été organisés, des spectacles, des concerts, du théâtre, etc. Donc, la partie culturelle. Donc, vraiment accueillir des artistes du coin, avec souvent voilà, une entrée au chapeau pour aussi permettre à tout le monde de venir, etc. et payer en fonction de ses moyens. Et le côté agriculture, parce qu'on a un maraîchage, donc on essaie de produire un maximum de légumes pour notre consommation sur place, même si il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Pendant l'été, on arrive à quasiment 80% des légumes, c'est pas mal. Et par contre, on a aussi cette souhait d'aller vers l'autonomie du lieu. Donc à la fois sur l'énergie, sur l'eau, sur l'alimentation, avec toutes les difficultés que ça peut représenter. Et on ne veut pas non plus être dans l'extrême et pousser jusqu'à 100%, mais on veut voir en fait qu'est-ce qui est possible avec le lieu qu'on a ici à notre disposition. Mm-hmm. Par exemple, on sait pour le maraîchage, il nous manque de l'espace pour vraiment être autonome. Mais donc on a un partenariat avec des producteurs du coin,
et
un collectif, et donc c'est à 4 km, on peut quasiment dire aussi que c'est l'autonomie avec les acteurs autour, ça se construit.
Mais c'est bien,
aussi.
Ça crée du lien aussi.
Tout à fait.
Que d'être autonome ou peut-être du coup une sorte d'enfermement sur
exactement,
soi.
Exactement. Donc on le définit plus à l'échelle locale, en fait, avec tous les acteurs autour. Et c'est ça l'idée, de développer ici des activités. On aimerait bien travailler sur des projets d'éducation à l'environnement, à la fois pour les petits, mais aussi pour les grands. Mm-hmm. Et donc, avec les acteurs qu'il y a déjà autour, donc il y a la garde des ramières, etc. Donc, il y a vraiment déjà un réseau qui est assez dense, en fait, en termes d'acteurs sur les questions environnementales. Mm-hmm. Mais l'idée, c'est vraiment travailler avec ces réseaux et faire des actions ensemble et complémentaires.
Donc, j'imagine une dimension très écolo.
Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est en effet, c'est après les motivations individuelles, pourquoi on se trouve dans un lieu comme ici, peuvent être différents. Ouais. Mais après, on s'accorde beaucoup sur cette dimension écologique. Donc, par rapport à l'urgence climatique, il faut trouver d'autres manières de faire, de vivre. C'est une conscience qu'on partage ici. Et qu'on souhaite aussi, on le décrit aussi souvent comme un lieu d'expérimentation, parce que c'est vrai, il n'y a pas un trajectoire qui est figé, qui nous montre comment il faut faire pour affronter tout ce qui va venir, changements, tous les changements climatiques, tous les impacts qu'il y aura. Donc ici, c'est aussi une manière de pouvoir expérimenter, parce qu'on est plus de personnes, on a plus de cerveau, on a plus de cœur, plus d'âme, voilà, que au sein d'une famille qui finalement voilà, qui peut aussi s'adapter, mais qui a peut-être moins de ressources et moins de possibilités de s'imaginer d'autres manières, quoi.
Ouais. Et toi, alors, quand tu es arrivée, est-ce qu'on t'a demandé tes valeurs, comment tu vois, comment ça se passe pour rentrer dans ce lieu, en fait?
Il y a une procédure pour rentrer, parce que c'est vrai que c'est très important dans un écolieu avec une, avec une dimension très collective, finalement. Ouais. Donc, nous, on a vu une annonce sur le site internet. Donc, c'était un moment quand le collectif cherchait des nouveaux habitants. On est venu une semaine juste pour voir à quoi ça ressemble et qui habite ici, etc. Ensuite, l'idée, c'était vraiment de réfléchir sur est-ce que ça peut nous intéresser, etc. Et pour nous, c'était clair parce qu'on cherchait depuis 5 ans un lieu collectif et on a eu vraiment un coup de cœur ici. Et donc, ensuite, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a un mois de découverte où on commence à participer aux activités, aux pôles, etc. Il y avait, voilà, il y a quand même une organisation sur, parce qu'il y a plein d'activités quotidienne et irrégulière, voilà, qui se cache derrière la vie ici dans le château. Donc on commence à s'engager dans tout ça. Mmh. Et ensuite, on répond à un questionnaire avec un peu plein de questions sur le fond, sur quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, nos activités, nos projections dans le temps, etc. Comment gérer des conflits. Voilà, il y a vraiment plein de questions différentes. Et ensuite, il y a, si c'est OK pour le collectif, la phase d'immersion. Qui dure aujourd'hui 3 mois, mais on est en train de réfléchir sur prolonger cette période parce qu'elle est à la fois trop courte et trop longue. Donc voilà. Et donc après, suite à cette période-là, il y a une décision du collectif si les candidats ils peuvent rester ou pas.
Voilà. Et vous aussi, parce que peut-être ça colle
oui,
pas.
Oui, c'est de deux côtés, bien sûr. Bien sûr.
D'accord.
Ouais. Mais oh, c'est ouais. pas voilà, c'est.
Oui, ça se fait pas d'emblée, quoi.
Non. Et finalement, 3 mois, ça peut être court aussi, parce que finalement, c'est si on se projette beaucoup dans ce lieu et on veut vraiment y être, on a du mal des fois à faire la part des choses entre je suis moi et j'essaie pas de faire des choses par rapport à qu'est-ce qu'il peut y avoir comme attente. Donc c'est un moment un peu stressant pour à la fois pour les collectifs et pour les candidats, etc. Donc une solution, ça serait de vraiment prolonger cette phase et du coup voilà, d'emblée c'est différent quand tu dis voilà, les candidats ils doivent déjà vivre 1 an, donc là on part sur une période beaucoup plus longue, donc plus détendue, etc. Mais bon, après voilà, tu as déjà mené pas mal d'interviews, il n'y a pas de règles d'or, non, en fait, chaque lieu trouve un peu ses solutions.
Comme mais il y a autant d'individus aussi, donc après...
Parce que c'est humainement, c'est un sujet qui peut être très compliqué, parce que ça peut créer beaucoup de déceptions, ça peut être vu comme une attaque aussi personnelle, quand il y a un non, et c'est très, voilà, c'est très compliqué.
Oui, ça peut être super frustrant, oui, tout à fait, oui. Oui, c'est pas toujours évident. Mais il faut accepter aussi que finalement, si j'ai bien compris, vous êtes vraiment sur un collectif. Est-ce que tu fais la différence entre collectif et communauté ?
Oui, pour nous, c'est très clair. On a, bien sûr, en fait, chacun est libre d'avoir voilà, une activité, par exemple, spirituelle, etc. Mais nous, on n'a pas cette dimension-là en partager. On n'appartient pas ni à un groupe politique, ni à... Voilà. Donc, pour moi, en fait, c'est ça la grande différence entre une communauté et un collectif, qu'il n'y a pas voilà, une dimension idéologique bien délimitée qui nous lie, qui nous réunit. Donc là-dessus, c'est vraiment chacun individuellement amène ses idées, ses convictions, et après, c'est des discussions, etc. Mais là-dessus, on n'est pas pareil. Et c'est intéressant aussi. Donc c'est chaque fois source de débats, des discussions, d'énervement aussi, des fois. Mais c'est, voilà, c'est intéressant. Et ça montre aussi, finalement, on ne peut pas dire qu'il y a toute la diversité de la France qui est représentée ici. On ne peut pas dire ça.
Non.
Mais... il y a quand même des métiers différents, des origines très différentes, etc. Donc c'est intéressant, ça crée un peu plus de diversité. Mais voilà.
Après, et vous faites des réunions souvent, non ?
On fait réunion par semaine.
Ah oui, quand même.
Qui dure à peu près 2 heures et 2 heures et demie. Ouais, ça peut être source de frustration aussi, parce que c'est toujours, en fait, il y a ce tiraillement entre l'efficacité et laisser la place à un vrai échange et le besoin aussi d'expression de certaines personnes au détriment de pouvoir acter toutes les décisions nécessaires, etc. Donc c'est, voilà, c'est des arbitrages, mm-hmm. c'est des ajustements. Ça évolue aussi dans le temps. Ça dépend quand il y a des personnes qui partent, d'autres personnes qui rentrent, ils apportent d'autres expériences.
C'est dans les rêves que les hommes s'en vont vers d'autres horizons que la voix de leur ombre. C'est dans les songes que les ombres s'assombrent devant tant de monstres et de demi-misères. Un voyage voyageable, si les voiles de mon châle voudraient bien sur soi, au vent de la bise, une valise invisible, un boulet de canon bien plus gros qu'un ballon, envoyé sur la touche. Tu peux partir, vivre libre ta vie d'amour, voilà les dires, les doux désirs de ma mère d'amour. De ne peu pouvoir vivre, c'est dans les cuisines que l'on forge des plats qui font des petits plats d'un étain bien tendre. Une terrible tornade ou d'humaines cascades dévale par vagues, dévale les étages. Une croisade incroyable où peuple barbare et château tartare défient le diable. Tu peux partir, tu peux vivre libre ta vie d'amour, voilà les dires, les doux désirs de ma mère d'amour. C'est dans les rêves que les astres s'élèvent, une école sans élève aux problèmes insolubles. C'est dans les sous-caves que gisent les braves, inspecte les oeuvres et insectes insipides. Une vie invivable où succèdent bipèdes et piètres acerbes vers le fond de mon âme. Mais demain il fera beau, je le veux, demain. demain il fera jour pour toujours ineffable. Tu peux partir, tu peux vivre libre ta vie d'amour. Voilà les dires, les doux désirs de ma mère d'amour.
Tic-tac-tac. Tic-tac-tac.